des recherches participatives en Bretagne ou comment science et société s'associent pour explorer les questions sociales, économiques, culturelles et environnementales. La recherche autrement est une collection de reportages qui vous fait découvrir l'innovation sociale sous toutes ses formes. Elle est réalisée par les radios associatives bretonnes de l'Accorlab avec le soutien de la région Bretagne et de l'Université de Rennes 2.
REC-EMI, c'est donc une recherche collaborative sur les actions d'éducation aux médias et à l'information des radios associatives de Bretagne. Dans les épisodes précédents de cette série radiophonique, on a pu mesurer à quel point les radios de l'Accorlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, étaient impliquées dans la transmission de la pratique radiophonique auprès de différents publics, jeunes ou moins jeunes, en milieu scolaire ou ailleurs. On a pu mesurer aussi que cette pratique était ancienne pour certaines des radios de l'Accorlab. On a pu constater la diversité de cette pratique. Les deux chercheurs qui ont participé au projet REC-EMI de 2022 à 2024, Barbara Fontard et François Saurin, avaient des questions relatives à leur discipline, les sciences de l'éducation.
Un des éléments quand même fort porté par l'Accorlab et les radios que l'Accorlab représente, et donc les praticiens qui étaient intégrés au groupe recherche, c'était la question de la reconnaissance de leur savoir-faire, de leur savoir-être, aussi de l'antériorité des radios associatives dans l'appropriation des médias radiophoniques et en fait de l'espace médiatique. C'est là qu'on s'est pas mal rencontrés, finalement, avec les radios, parce que Barbara et moi, on rencontre les radios associatives avec des intérêts de connaissance qui sont doubles. À la fois, quelle spécificité de la radio comme support pédagogique et éducatif, qu'est-ce que permet de faire la radio avec des groupes qui lui est propre. Donc on a travaillé là-dessus. Moi, c'est ça surtout qui m'a amené à ce projet. J'avais envie de travailler la pédagogie radiophonique. Et par ailleurs, on observait nous aussi que depuis 2015, on avait un retour de l'éducation aux médias et à l'information à l'agenda politico-médiatique. On en parlait beaucoup. Il y avait une dynamique autour de ça. Et ça nous intéressait de savoir comment des acteurs historiques sur les territoires, qui font faire de la radio depuis de longues dates, bah comment est-ce que cette actualité politico-médiatique autour de l'éducation aux médias les impactait ?
Mais l'éducation aux médias, on a vu que la définition même du sujet, même concentrée sur les radios, était complexe.
L'éducation aux médias. L'éducation aux médias et l'information.
J'ai pas ma définition. En tout cas, l'éducation aux médias, ce que moi je pourrais en dire...
Barbara Fontard.
C'est à la fois un champ de pratique, donc des pratiques plurielles portées par des acteurs, que ce soit des éducateurs, des médias, l'école, les parents. Ça, ce sont des acteurs de l'éducation aux médias qui ont des pratiques d'éducation aux médias plus ou moins formelles, plus ou moins informelles. Les parents ont une éducation aux médias très informelle. L'école, l'éducation aux médias qu'elle promeut est beaucoup plus formelle. L'éducation aux médias, c'est aussi un champ institutionnel, politique. C'est une politique publique portée depuis les années 70 au niveau international par l'UNESCO. Et puis, c'est aussi un objet de recherche pour les chercheurs comme je suis.
Alors, les animatrices et animateurs des 10 radios de l'Accorlab impliqués dans le projet REC-EMI ont réfléchi.
Ce que je retiens là, c'est quand même cette volonté de produire et de construire une définition commune et reconnue par toutes et tous.
JB Dutertre, de Plume FM, à Séran.
C'est vraiment ça, c'est-à-dire répondre à cette question, c'est quoi l'EMI aujourd'hui et c'est quoi l'EMI dans une radio associative et pourquoi nous sommes tout autant légitimes à intervenir dans ce champ de l'EMI que d'autres corporations, je pense aux documentalistes ou je pense aux journalistes.
Il y a beaucoup d'idées reçues sur les pratiques des médias.
Isèle Vincent, de Radio Balise, à Lanester.
Et notamment des jeunes, il y a un vrai truc sur les jeunes, trop les réseaux sociaux, pas assez, enfin, et puis les fake news, et puis oh mon Dieu, les complots. Et qu'en fait, les récits qu'on fait, nous, de nos ateliers, ils sont pas souvent en adéquation avec ces idées reçues. À titre personnel, l'endroit où j'ai entendu le plus de choses qui s'apparenteraient à des fausses informations, qui pourrait aller vaguement, mais tout doucement, vers une forme de complotisme. Je l'ai entendu plutôt en milieu pénitentiaire, auprès d'un public qui est 22 heures sur 24 dans une cellule avec la télé allumée, bien souvent sur des chaînes d'information continue. Finalement, les publics adolescents notamment, moi j'ai la question de débunker l'info, déjà débunker l'info, ce bunker de l'information, je l'évacue très très vite en fait. Je vérifie avec eux. Quand je vérifie comment ils s'assurent qu'une info est véridique ou fausse, puis encore ça c'est des concepts bien compliqués, ben, ils ont les outils en fait. Globalement, je trouve que ça va. Je trouve qu'on s'en sort bien et qu'on peut faire confiance globalement au bon sens. Ce que je retiens de cette recherche aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé des publics auprès desquels on intervenait et qu'on ne peut pas parler d'éducation aux médias et l'appliquer à tous les publics de la même façon, en fait. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on applique, l'éducation aux médias, c'est quelque chose qu'on expérimente, qu'on déconstruit, qu'on essaie de comprendre. Voilà.
Hé, hey, c'est quoi ça? Comment ça marche?
Ça sert à
c'est
quoi?
C'est trop bien!
Chronique jeux vidéo.
C'est pas mal!
Pourquoi c'est comme ça? Bonjour à tous, je vais vous parler de quelque chose qui est probablement en train de vous indiquer votre chemin si vous êtes en voiture, ou peut-être à recharger si vous êtes chez vous. Je vais vous parler du téléphone. C'est d'ailleurs avec celui-là que j'ai écrit cette chronique. Car oui, aujourd'hui, on utilise le téléphone pour tout. Il nous accompagne toute la journée. Le matin, il nous réveille.
Ce qui ressort aussi, c'est que c'est une éducation aux médias qui ne porte pas nécessairement ce nom. C'est-à-dire que, pour moi, en tant que chercheuse, bien sûr que c'en est une. Pour les acteurs qui font ces ateliers radio depuis des années, ce n'est pas forcément de l'éducation aux médias. Pourquoi ? Parce que depuis 2015, l'éducation aux médias qui est prônée par les politiques publiques, c'est une éducation aux médias très normative, très citoyenne, très citoyenniste, avec une vision parfois très stigmatisante des publics et des pratiques médiatiques, notamment des publics juveniles. Et je crois que c'est pour ça qu'un certain nombre des acteurs des radios associatives qui font ces ateliers radio n'ont pas envie de définir leurs actions socio-éducatives comme de l'éducation aux médias, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les discours de politique publique en matière d'éducation aux médias. Je pense que ça, c'est aussi important de le dire, d'affirmer une autre éducation aux médias, en tout cas une autre éducation aux médias que l'éducation aux médias protectionniste et citoyenniste qui est portée depuis 2015.
Une autre éducation aux médias, spécifique aux radios associatives. Mais de quelle façon ? Ce sont aussi ces spécificités que le projet Rekemi a permis de dessiner.
Ce qu'on a pu constater, ça c'est vraiment un des résultats de notre recherche, c'est que finalement, ces chargés d'ateliers radio, ils ont une professionnalité plurielle, trois rôles dans leur action. Quand ils conduisent une action, ça implique à la fois d'être journaliste ou professionnel des médias dans sa dimension éditoriale. Ça implique d'être éducateur ou éducatrice, c'est-à-dire d'accompagner un public et pédagogue. Et puis, ça implique aussi d'être technicien ou technicienne. Et donc, ils tiennent tous et toutes ces trois rôles au cours de leur atelier.
Chacun d'entre eux, se sent davantage éducateur que journaliste, ou inversement, davantage journaliste qu'éducateur. Mais en situation, ils articulent ces dimensions. Et ils les articulent pour ouvrir des espaces pédagogiques différents. C'est ça qui est intéressant, parce que lorsqu'on mène un atelier radio, l'objectif, qui peut changer d'un atelier à l'autre, ou même des fois au cours de l'atelier, à des moments, il s'agit de faire en sorte que les gens apprennent à utiliser la radio et les différents rôles radiophoniques. Mais à d'autres moments, l'objectif, c'est simplement d'être en capacité de s'exprimer, de se dire. Et puis, à d'autres moments, l'important, c'est qu'ils décident de ce qu'ils vont faire ensemble, etc. Toute une série d'objectifs de champs des possibles pédagogiques qui sont rendus possibles précisément par la capacité des praticiens à jouer sur ces différents tableaux, à la fois techniques, éducatifs et journalistiques, médiatiques. C'est cette triangulation qui ouvre le champ des possibles pédagogiques des ateliers radio. Et ça, c'est aussi rendu visible dans la manière très diverse qu'ont les institutions partenaires des radios, les écoles, le travail social, à solliciter les radios pour faire des ateliers radio qui ont en fait des objectifs qui peuvent être très différents d'un atelier à l'autre.
On a repéré 4 objectifs des ateliers radio. Le premier objectif, c'est faire, hein, s'approprier les moyens de production radiophonique en faisant de la radio. Et un deuxième objectif qui est savoir, comprendre les médias, savoir qu'il existe une grammaire médiatique, des grammaires journalistiques, comment fonctionnent les médias. Un autre objectif, c'est dire, prendre la parole. Et puis un autre objectif aussi, le dernier, c'est décider de quoi je vais parler, de la manière dont je vais en parler, co-construire collectivement. Voilà, ces 4 objectifs-là, faire, savoir, dire et décider, c'est vraiment l'identité des ateliers radio, des radios associatives bretonnes.
La variété des rôles radiophoniques, les rôles techniques, rôles éditoriaux, la variété des configurations possibles, est un levier pour les praticiens pour maintenir la participation de tous, même dans un contexte où on n'a pas trop envie. Voilà.
Pour intégrer tout le monde.
Ouais, voilà. On peut se contenter vraiment, entre guillemets, de faire la technique. On peut aller très vite vers le micro et simplement « Bonjour tout le monde, installez-vous. Bonjour, on parle. » Voilà. Simplement la proposition éditoriale. Trouve-moi un morceau de musique, etc. Donc, on a une gamme finalement très large de rôles radiophoniques possibles, dont les praticiens s'emparent pour garantir la participation de tous et même individualiser la participation. C'est très net. Ça, c'est un premier point très net. La seconde spécificité de la radio d'un point de vue pédagogique, c'est la promesse de la diffusion. Il se passe quelque chose autour de ça et les praticiens en usent comme d'un levier dans l'engagement des personnes.
Quand on pense que si Robinson Crusoé, nous n'aurions peut-être pas connu Vendredi.
Et c'est ballot, car c'est précisément ce jour-là qu'on choisit les généreux et très gentils bénéficiaires de la rentabilité sans action, RSA.
Pour se retrouver d'abord pour partager une eau chaude, et ensuite pour échanger idées contre paroles.
La radio, c'est certainement un de ces médias un peu magiques où il y a une forme de totale horizontalité de l'accès aux ondes. Si vous êtes diffusé sur le même appareil et sur le même type de fréquence que NRJ ou Skyrock, très clairement. Cette promesse de la diffusion agit aussi sur la pratique des chargés d'ateliers radio, puisque ça les oblige à tenir un rôle éditorial, un rôle de responsabilité éditoriale, et qui vient parfois en contradiction avec la dynamique expressiviste qu'ils professent par ailleurs. À la fois, vas-y, lâche-toi, c'est ton moment, mais en même temps, attention, on est sur les ondes, on est tenu, évidemment. C'est pas forcément un problème, puisque c'est précisément dans cette tension-là que se travaille une partie des enjeux de l'éducation aux médias.
Si on choisit de travailler dans une radio associative, on le choisit aussi parce qu'on se dit que c'est un média accessible par tous, pour tous. Moi, j'ai un souvenir quand même sur les fameux entretiens personnels où Barbara me demande « Mais pourquoi tu fais ça ?» Enfin, c'est la grande question de « Qu'est-ce qui t'anime ?» Et en fait, je déroule, et à la fin, je dis « Mais parce qu'en fait, c'est pas juste. » Et en fait, je crois qu'on a un peu de ça aussi, de se dire « C'est pas juste que ce soit toujours les mêmes qu'on entende, c'est pas juste que ce soit toujours les mêmes qui se sentent légitimes à s'exprimer. » Et qu'en fait, nous, on vient juste offrir une possibilité que cela soit différent. Et voilà, je pense qu'il y a une sorte de volonté de société meilleure, quoi, aussi. Alors, ça fait pompeux quand je le dis, non ?
Un peu, il y a de l'utopie derrière, tu veux dire ?
Il y a de l'utopie.
Se faire faire de la radio est vraiment essentiel et ça renvoie à cette pédagogie active qui est portée par Douai ou qui renvoie à Freinet aussi en France. C'est apprendre en faisant, c'est très revendiqué et notamment revendiqué par un des pères fondateurs, on va dire, de l'éducation aux médias en France, qui est Jacques Gonnet et qui avait fondé le CLEMI. Donc il y a vraiment une signature pédagogique là des radios associatives qui est sensibiliser et faire participer. Mais il y a une autre visée que permet se faire faire et là qui est sans doute là encore une signature des radios associatives qui est de s'inscrire dans le mouvement de la pédagogie critique de Fréré avec une visée expressive, expressiviste, tout à fait revendiquée. Il y a une finalité pour les publics, hein, une finalité émancipatrice, transformatrice. En fait, faire de la radio, c'est aussi donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.
RSA, Revenu de Solidarité Active. Beaucoup en parlent, mais souvent sans savoir.
Eh bien, quand on ne sait pas, on demande.
Ce qu'ils ont à dire n'est pas toujours simple.
Et ça sera sur le ton de la confidence.
Et cette dimension-là, elle est, j'ai envie de dire, chevillée au corps des radios associatives. Donc oui, c'est sans doute une des spécificités de cette éducation aux médias-là.
Donner la parole et être reconnu pour ça. Le projet Rekemi a permis d'asseoir la légitimité des animatrices et animateurs des ateliers radio.
La légitimité, elle était en effet questionnée à deux endroits.
Xavier Millinaire, le coordinateur de la Corlab.
À l'intérieur même des radios, où les responsables d'ateliers radio sont souvent seuls et manquent d'altérité justement pour décrire ce qu'ils font. Et du coup, avaient parfois du mal aussi à se faire reconnaître au sein de leurs instances associatives comme étant une composante majeure du projet associatif. Certaines radios ont au cœur de leur projet associatif depuis 30-40 ans la dynamique socio-éducative, faire de la radio. Mais c'est souvent un peu subsidiaire par rapport au projet principal de la radio qui est d'émettre, diffuser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Certaines s'y sont mises finalement au cours des années 2010 face à une commande sociale qui a augmenté et n'ont pas forcément une définition à proprement dit de cette approche socio-éducative dans leur projet associatif. Et donc, les soucis de légitimité, ils pouvaient déjà être vécus au sein même des radios. Ensuite, le second endroit où cette légitimité pouvait être questionnée, c'est, on va dire, à l'externe, dans la relation avec nos partenaires institutionnels, culturels, socio-éducatifs. Autour de cette nouvelle item, l'éducation aux médias, qui n'a jamais été revendiquée à proprement dit par les praticiens, qui se définissait en tout cas avec d'autres intitulés. Faut savoir que dans la Convention nationale de la radiodiffusion, qui s'applique donc dans nos associations, dans nos radios, il n'y a pas d'intitulé de poste autour de l'animation d'ateliers, de l'approche socio-éducative, de l'éducation aux médias. On est animateur ou animatrice, technicien, réalisateur. Ce qui ne veut pas dire grand-chose quand on passe son temps, finalement, sur le terrain à conduire des ateliers. Et quand l'item éducation aux médias s'est imposé, la première réaction que pouvaient avoir certains de mes collègues, c'était « moi, je ne suis pas journaliste, moi, je ne peux pas revendiquer faire l'éducation aux médias ». Donc il y avait une espèce de syndrome de l'imposteur autour de ça, puisque l'éducation aux médias serait un domaine réservé sans doute à certains champs spécifiques, journalistiques notamment. Et donc il a fallu aussi accepter de décortiquer et de relire le parcours, les trajectoires socio-professionnelles de ces acteurs pour les conforter dans leur légitimité à exprimer, être des acteurs de l'éducation aux médias.
Assumer de se dire, moi, les ateliers que je propose d'éducation aux médias, à l'information, seront expressivistes et basés sur les techniques de l'éducation populaire. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas ça qui vous intéresse. Moi, je vous propose d'aller contacter mes collègues qui sont à côté et qui feront de l'éducation aux médias comme vous voulez.
Pierre-Louis Le Seul, Radio U, Brest.
En gros, si j'ai un potentiel partenaire qui vient me proposer de faire un atelier de 2 heures sur les fake news, je vais leur dire non. Enfin, moi, je ne le fais pas. Je vais assumer de ne pas le faire. Et je vais leur dire, si vous voulez vraiment faire un truc sur les fake news, je peux vous faire quelque chose avec mes techniques et ma manière de faire. Donc, demandez à vos élèves de créer une fake news, ça oui. Par contre, si vous voulez que je vienne pour expliquer avec un PowerPoint comment ça va se passer, appelez un tel ou appelez un tel, ils le feront très bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que chacun fait aussi ce qu'il a envie de faire et assume, parce que finalement, l'EMI, c'est très politique.
Un des résultats de la démarche, c'est très clairement, moi il me semble, des salariés des radios associatives qui sont aujourd'hui beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là, qui se les sont appropriées de manière critique, pour en garder ce qu'ils avaient envie d'en garder, et puis qui ont, comme c'est souvent le cas lorsqu'on a l'occasion de parler de ce qu'on fait avec des pairs professionnels, des pairs PAIR évidemment, on développe une capacité à dire ce qu'on fait et à donner du sens à ce qu'on fait, à pouvoir le partager et le mettre en réflexion. C'est un des résultats de la recherche, certainement, une appropriation, une réflexivité forte des praticiens sur leur propre activité.
Ça assure un vrai fond derrière, mais ça renforce aussi vraiment une posture de dire ok, ça fait 2 ans qu'on a fait une recherche, qu'on réfléchit à nos pratiques avec les collègues, etc. Donc là, je te le dis pas ça au doigt mouillé et à peu près au pif sans savoir ce que je te dis. Je le dis, je l'assume. Et pour le coup, ça risque de pas beaucoup bouger parce que j'ai pris le temps de réfléchir dessus et qu'on a pris le temps collectivement de réfléchir dessus et qu'on est tous d'accord.
Je suis confortée dans l'idée qu'un atelier radio, ça transforme des personnes, des situations, des lieux. Ça fait bouger quelque chose. Ça.
Fanny Gimeno, Timbre FM, Augan.
Ça me convainc de l'utilité sociale de nos ateliers, de nos radios, du poids qu'on peut avoir, si ça disparaît.
En fait, on est revenu encore une fois sur l'utilité sociale de la radio, mais au-delà même de la notion de média, en fait, de liberté d'expression, d'esprit critique et tout ça, mais de qu'est-ce qui se passe quand un jeune qui est déscolarisé... Qu'est-ce que ça raconte quand il vient au rendez-vous qu'on lui donne pour faire un atelier radio et qu'il ne rate pas ce rendez-vous ? Quel effet ça a sur lui, sur la société, dans ce qu'il est à ce moment-là ?
Les résultats, et là je vais vraiment m'exprimer en tant que responsable de la CoreLab, c'est la maturité politique et critique que nous avons sur le champ de l'éducation aux médias. Et d'ailleurs, cette maturité, elle s'observe, elle s'entend quand on écoute les premiers enregistrements de nos séances de travail et les derniers où on voit qu'on manie beaucoup mieux les concepts et qu'on a beaucoup plus d'aplomb et de sérénité dans la manière de défendre notre éducation aux médias. Ça a donné lieu à la production d'un manifeste qui est vraiment un document cadre qui va permettre aussi aux radios de réguler leur relation avec les partenaires avec une défense appropriée de notre éducation aux médias, de notre vision en tout cas de l'éducation aux médias. Et je dirais que cette excroissance de plaidoyer, bon, c'est un peu barbare comme terme, mais disons que sur la reconnaissance politique de l'éducation aux médias en Bretagne, on a su initier de nouveaux espaces de travail et les relations institutionnelles et politiques que j'entretiens depuis 2 ans sur le champ de l'éducation aux médias ont pris vraiment une autre dimension avec une reconnaissance pleine et entière du rôle des radios associatives et une compréhension de la complexité aussi de ce qu'est l'éducation aux médias, de la reconnaissance qu'il s'agit d'une question socialement très vive, très forte, très délicate, qui appelle vraiment à des espaces de réflexion, d'analyse. Et je crois que la reconnaissance de l'éducation aux médias comme champ socio-éducatif particulier, au même titre que d'autres formes d'éducation c'est l'une des réussites de ce projet REC-EMI et qui va nous permettre de poursuivre un travail dans les prochains mois avec d'autres acteurs investis sur le champ de l'éducation aux médias et continuer à progresser intellectuellement sur ce champ-là.
Le projet REC-EMI est fini, mais en fait, non. C'est souvent le cas, une recherche en entraîne une autre.
En faisant se rencontrer ces acteurs des radios associatives qui finalement œuvraient un peu individuellement et de manière un peu isolée. Le fait qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent, qu'ils partagent leurs activités, leurs points communs, leurs épreuves, on s'est dit en fait ce que rencontrent ces acteurs, d'autres acteurs doivent le rencontrer, d'autres acteurs de l'éducation aux médias doivent le rencontrer. Et donc on s'est dit ce serait vraiment formidable d'élargir ce groupe de recherche en fait. Et on a porté ça avec François et Xavier. Et effectivement, on a invité d'autres acteurs à nous rejoindre en quelque sorte et à porter un projet de recherche plus large, donc avec d'autres chercheurs, notamment du laboratoire AREN et d'autres acteurs de l'éducation aux médias, donc les professeurs documentalistes qui sont en première ligne de l'éducation aux médias à l'école, mais aussi des journalistes, notamment du Club de la Presse, mais aussi d'autres acteurs de l'éducation aux médias, que sont les médiateurs numériques, par exemple. On a porté ce projet de recherche et qui a abouti à un groupe de recherche, un GTI, un groupe de travail interdisciplinaire, qui s'appelle MBAP, ou Mbappé pour la blague, Éducation aux médias en Bretagne, acteurs pratiques et enjeux, qui est né en 2023, et qui aujourd'hui va se déployer, on espère en tout cas, une poursuite de ce projet autour d'un réseau des acteurs de l'éducation aux médias en Bretagne que porterait dans un premier temps, en tout cas sur une première année, la CorLab. Il y a aussi ceux qui pensent ou ceux qui financent l'éducation aux médias qui sont embarqués dans BAP. Parce que ce qui paraît important et parmi les épreuves que rencontrent les acteurs, eh ben, il y a la question de la pérennisation, de la reconnaissance, des moyens de leur action et de peser en fait, de pouvoir peser sur les politiques publiques. C'est aussi un des enjeux de ce réseau et notamment d'essayer de stabiliser une activité. On a une politique publique qui enjoint les acteurs de faire de l'éducation aux médias, mais avec des moyens qui sont extrêmement limités. Et embarquer aussi les institutions qui financent ou qui pensent l'éducation aux médias nous paraissait essentiel qu'il y ait ce dialogue entre acteurs. Alors, je vais reprendre des termes proposés par François, de créer un dialogue entre les professionnels du fond et les professionnels du front, entre ceux qui font et ceux qui pensent. Voilà. C'était aussi un des enjeux très importants de ce groupe de recherche en BAP.
J'ai aimé le projet. Je me suis amusée à faire de la radio.
J'ai aimé enregistrer mon poème. J'ai appris à utiliser un micro, un enregistreur avec Fanny.
Si on met un enregistreur trop près de la bouche, ça brouille le son.
Quand nous avons le casque sur la tête, c'était drôle.
C'était parfois difficile de redire les mots du texte. J'aimerais recommencer à faire de la radio.
Ce reportage a été réalisé par la CorLab avec le soutien de la Région Bretagne et de l'Université de Rennes 2. Pour plus d'informations, rendez-vous sur corlab.org.